Bienvenue dans le podcast Le Procès du siècle, Délibération citoyenne.
Une série d'entretiens imaginés et produites par le MUCEM, Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée.
Pour cette première saison 2021-2022, il sera question de nous
et de l'usage que nous faisons du monde.
Par exemple, allons-nous vider les océans?
Face au dérèglement climatique, est-il trop tard?
Avons-nous encore la maîtrise du temps?
À chaque épisode, nous appellerons à la barre des excès de nos sociétés contemporaines et irons, avec Lionel Bordeaux et Anne-Cécile Bras,
à la rencontre de deux experts et de paroles citoyennes.
Bienvenue pour ce cinquième grand procès organisé par le MUCEM avec comme thème aujourd'hui « Nos manières d'habiter le monde sont-elles durables ?» En effet, au moment où la crise climatique se déroule, nous savons que le plus gros sujet reste notre capacité à habiter la planète. À 50 degrés dans certains pays, une montée des eaux qui pourrait fragiliser l'habitation des littoraux, des grands épisodes climatiques, de tornades, de tempêtes, tout ça fragilise l'habitation humaine et donc nous fait poser cette question toute simple. Comment devons-nous habiter le monde ? Comme nous sommes dans un grand procès, l'idée est de savoir s'il y a des responsables, si nous avons mal fait. Avons-nous mal construit les villes, la manière d'habiter ensemble de manière séparée? Pour parler de ce sujet, nous avons deux invités aujourd'hui, le journaliste essayiste Jean-Laurent Casselli et le géographe professeur d'université à Lyon, Michel Lussault. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Peut-être pour commencer ce débat qui est très large, la manière d'habiter le monde, Michel Lussault, vous qui êtes géographe, comment pouvez-vous définir ce sujet de la manière que les êtres humains ont d'habiter le monde ?
Je crois qu'il faut lui donner de l'épaisseur géographique et historique. Géographique d'abord, puisque je suis géographe, rappelons que la question que nous nous posons aujourd'hui est une question très importante et très difficile à traiter en raison d'abord du nombre d'humains qui désormais cohabitent sur cette planète. Puisque nous allons être bientôt 10 milliards d'êtres humains en 2050, nous sommes aujourd'hui pas loin de 8 milliards. Et il faut toujours rappeler ça parce que il y a quelques milliers d'années, c'est-à-dire très peu de temps à l'échelle des temps géologiques, il n'y avait que quelques centaines de milliers, puis quelques millions d'êtres humains. Il a fallu attendre le 18e siècle, la fin du 18e siècle, pour aborder une période où on était presque un milliard. Il y avait 1,5 milliard d'êtres humains en 1900, et nous serons 10 milliards en 2050, dont les deux tiers habiteront, résideront dans des ensembles urbains, alors qu'il n'y en avait que quelques centaines de millions en 1900, 220 millions d'urbains en 1900, presque 7 milliards d'urbains en 2050.
Mais tous les habitats ne se valent peut-être pas. La population, en effet, a considérablement augmenté, notamment en Afrique. Mais pour autant, l'empreinte carbone du continent africain reste faible par rapport à l'empreinte carbone de la Chine, de l'Europe, des États-Unis.
Bien entendu, dire que nous sommes très nombreux ne signifie pas qu'il faille considérer que nous soyons tous égaux en matière d'habitation. Et vous venez de le rappeler fort bien. Il n'est absolument pas douteux que les Américains, les Européens sont beaucoup plus contributeurs aujourd'hui d'impact humain sur les systèmes biophysiques que les Africains ou bon nombre d'ailleurs de Latino-Américains. Cela étant, si l'on prend cette fois-ci une perspective historique, eh bien on s'aperçoit que depuis que Sapiens existe, depuis quelques dizaines de milliers d'années, la grande caractéristique de l'Homo sapiens, c'est que dès le départ, il est capable d'avoir une influence très forte sur son environnement biophysique. En fait, le génie de l'espèce humaine, c'est sa capacité à utiliser des ressources biophysiques de son environnement proche ou de son environnement un peu plus éloigné et de le transformer en cadre de vie, si j'employais une expression contemporaine, de le transformer en habitat au sens des sciences naturelles du 18e et 19e siècle. L'habitat pour les sciences naturelles, c'est l'espace de vie d'une espèce. Et les êtres humains ont cette capacité à créer des habitats qui, dès le départ, sont des habitats qui utilisent au maximum les ressources d'un environnement. Donc l'être humain, depuis le début, c'est un animal extractif. Il extrait des ressources. C'est un animal qui a des impacts sur les systèmes biophysiques et qui peut déjà avoir des impacts environnementaux tout à fait colossaux dès les périodes du néolithique. Donc, cette question n'est pas si simple et ça donne de la pertinence à ceux qui voudraient désigner la période actuelle du nom d'anthropocène, hein, c'est-à-dire cette période qui serait la période où l'homme devient une force géologique, hein, c'est la définition qui en est donnée. Eh bien, l'anthropos humain de l'Anthropocène a quelques valeurs si l'on se souvient que depuis l'apparition de Sapiens, on peut observer cette capacité de l'être humain d'avoir un impact très fort sur les systèmes biophysiques, plus que toutes les autres espèces.
Alors, impact, d'accord, mais encore une fois, la manière que l'on a d'habiter ce monde peut extrêmement varier en fonction des zones géographiques. Et alors, si on revient un petit peu à la situation française, avec Jean-Laurent Casselli qui vient d'en parler dans un de ses livres, la manière justement dont les Français peuvent se projeter dans une façon d'habiter, à travers notamment la maison individuelle, cette manière de vivre a été récemment pointée du doigt en disant « c'est plus possible, la maison individuelle pour tous, ça ne peut pas marcher à l'heure de la crise climatique ». Alors peut-être déjà Jean-Laurent Casselli, quelle est la situation de cette façon d'habiter en France ?
Oui, alors c'est vrai que contrairement à Michel Lussault, moi j'ai un objet d'étude qui est un peu plus resserré à la fois dans l'espace et dans le temps, qui est on va dire un peu le français moyen du début du XXIe siècle et ses modes de vie. Si vous voulez, il est intéressant peut-être de rappeler que la crise sociale majeure en fait, du quinquennat qui s'achève, qui est la crise des gilets jaunes, a démarré sur une question de taxation du carburant, taxe carbone, pour des raisons liées à l'écologie. Hein, et la révolte en fait contre cette mesure est partie de ce qu'on a appelé une révolte des ronds-points, c'est-à-dire de la part de populations qui avaient opté pour un mode de vie, plutôt celui de la maison individuelle en périphérie, avec alors, tout l'imaginaire qu'on peut associer un petit peu à ce choix de vie, avec donc la maison avec jardin, le barbecue, la piscine, l'usage de la voiture, voire de deux voitures pour se rendre au travail, pour aller chercher les enfants à l'école, pour se ravitailler au supermarché. La centralité de ces zones commerciales de périphérie, qui elles aussi sont très décriées en France depuis une dizaine d'années, depuis la fameuse couverture de Télérama, La France moche, en 2010 ou 2011. Et si vous voulez, cette révolte des ronds-points, ce qu'elle a dit politiquement, c'est qu'une partie de la population se sentait de plus en plus montrée du doigt en raison d'une sorte de triple disqualification, qui est une disqualification esthétique, hein, la soi-disant mocheté en fait de l'urbanisme de périphérie et de ces maisons, de ces lotissements et de maisons individuelles, une disqualification écologique, hein, ça serait un mode de vie gourmand en énergie, en pétrole et opposé finalement presque inférieur moralement à la ville dense, que défend souvent la pensée urbaine, qui est plutôt une pensée de centre-ville, hein, quand elle parle de ses périphéries, et puis une disqualification politique, puisque on a beaucoup associé, à mon avis de manière excessive, parfois à tort, ces espaces à des espaces de relégation, d'aliénation et de vote, on va dire, populiste pour aller vite. Mais en tout cas, voilà, moi je retiens qu'aujourd'hui, le mode de vie des périphéries, des maisons individuelles, qui est celui d'à peu près un Français sur deux, est ultra majoritaire dans les têtes, puisque à chaque fois qu'on fait un sondage pour demander aux Français comment est-ce qu'ils aimeraient vivre, où est-ce qu'ils aimeraient vivre, la maison individuelle est majoritaire à 70, 75 ou 80%. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tension majeure entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, pour le dire simplement, de manière un peu triviale, c'est-à-dire entre ce que la doctrine écologique, la pensée urbaine dominante nous ordonne ou nous enjoint de faire, et le choix de vie majoritaire, qui est une sorte de vote avec les pieds, qui est depuis encore renforcé dans l'après-Covid, celui d'un choix de la maison, du jardin, et d'un, alors j'aime pas le mot repli, parce que je trouve qu'il est un peu excessif, et puis il est moralisateur, mais d'une préférence pour l'habitat individuel.
Mais alors, quand même, la maison pourrait peut-être être pointée du doigt. Par exemple, dans la couronne parisienne, les pavillons ou les maisons individuelles sont habitées en moyenne par 1,5 personnes. Ça peut... Bon, ce qui est quand même pas beaucoup. Donc, est-ce que nous devrions pas être plutôt sur des habitats resserrés, sachant que l'espace commence à manquer ? Michel Lussault expliquait que la population mondiale, mais c'est vrai aussi en France, ne cesse d'augmenter. Les terres, donc, sont artificialisées. Il faut construire davantage de maisons, davantage de commerces. Il faut davantage de culture également pour pouvoir nourrir toutes ces personnes. Donc, a-t-on encore les moyens de pouvoir entretenir cet imaginaire français, mais qui, je pense, va bien au-delà de la France ?
Ça fait 50 ans qu'il y a des rapports d'urbanistes et de sénateurs et de toutes sortes d'experts pour nous expliquer que la ville, l'étalement urbain, c'est une catastrophe, que c'est mal. Avant même qu'on ait parlé d'écologie, on tentait déjà en fait de réfréner cette ardeur en fait des Français, et en fait on n'y est jamais parvenu en fait. Et alors je pense qu'aujourd'hui les mentalités évoluent un petit peu, et puis de toute manière pour des questions, si vous voulez, triviales de pouvoir d'achat, beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir maintenir en fait ce mode de vie basé sur les déplacements en voiture individuelle, et ils vont être forcés quelque part de repenser leur mode de vie. Le vrai problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas remettre les gens dans les villes, on ne va pas les forcer à habiter dans de l'habitat collectif, et on ne va pas leur dire « prenez un vélo électrique au lieu de prendre votre voiture pour faire 32 km ou 17 km le matin, puisque c'est plutôt 10-15, on va dire, km le trajet moyen domicile-travail. » En fait, si vous voulez, pour le résumer d'une formule, on a beaucoup parlé du monde d'après, dans les mois qui ont suivi la crise qui a été le Covid, la crise existentielle aussi qu'elle a enclenchée. Et ce monde d'après, il va falloir le construire dans la France d'avant. C'est-à-dire que les infrastructures, le bâti, pour l'essentiel, va rester. Il va falloir donc inventer des modes de vie hybrides, en fait, ce qui a été construit, ce qui a été inventé, notamment dans les Trente Glorieuses, qui était une époque dans laquelle on n'avait pas les mêmes priorités, qui ont correspondu aussi à des attentes, qui étaient l'attente de confort, l'attente l'espoir de la modernité. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on revient un peu en arrière, mais je n'ai pas la réponse. En tout cas, je suis à peu près sûr que ce n'est ni par la contrainte, ni par la moralisation qu'on convaincra les gens d'habiter autrement.
La maison individuelle, pour l'instant, est sauvée. 50 ans de rapport pour finalement un étalement urbain qui ne cesse de progresser. Alors, Michel Lussault, vous avez amené une pièce à conviction qui est un moment, est une photo que je vais peut-être vous laisser décrire. Nous sommes à Shanghai en 2010 et pour vous, il y a une bascule qui se passe à ce moment-là. On a parlé de la maison individuelle, mais il y a un autre phénomène majeur qui s'est passé dans l'humanité, c'est l'exode rural. Et donc, en Chine, en 1949, 90% des gens vivent à la campagne. En 2010, plus de la moitié vivent en ville. Peut-être, Michel Lussault, expliquez-nous ce qui se passe à ce moment-là.
Alors, Shanghai, c'est un moment que l'on peut prendre de façon emblématique et avec une visée pédagogique. Et c'est le moment de l'exposition universelle de Shanghai, Better Cities, Better Lives, donc des meilleures villes pour de meilleures vies. Une exposition qui va être visitée d'ailleurs par près de 100 millions de Chinois. Nous sommes dans le pays des grands nombres. Certaines journées, on va accueillir plus d'un million de personnes sur le site de l'exposition. Ça donne le vertige. Et une exposition qui est emblématique du moment où on découvre finalement que l'urbanisation planétaire a complètement bouleversé la Terre. Parce qu'effectivement, Shanghai en 2010, c'est le moment où l'ONU et aussi toute une série de chercheurs convergent vers l'idée que plus de la moitié de la population de la Terre est désormais urbanisée. Et cette étape franchie, qui est une étape bouleversante, puisque dans toute l'histoire précédente de l'humanité, l'humanité avait été une humanité des petits nombres, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes désormais dans l'humanité des très grands nombres, et l'humanité avait été une humanité dotée d'une géographie plutôt campagnarde, si l'on peut dire, c'est-à-dire une géographie non urbaine. Eh bien, la Terre devient une planète urbaine. L'Homo sapiens devient un Homo urbanus, c'est-à-dire que l'urbanisation est désormais généralisée, et c'est largement en raison de l'urbanisation chinoise que l'on connaît cela, puisque en 25 ans, la Chine va passer de statut de pays très peuplé, massivement rural, à un pays majoritairement urbain. Et au moment de cette exposition universelle, où on réalise en quelque sorte que la Terre a changé, la Terre n'est plus la même. Donc la Terre a changé parce que nous n'habitons plus la Terre de la même façon. Nous habitons la Terre en urbain aujourd'hui. Habiter la Terre en urbain, ça veut dire que même lorsqu'on habite, qu'on réside en forêt amazonienne, eh bien on va utiliser un smartphone, du plastique, on va être en contact mobilitaire avec les grandes métropoles du coin, on va s'habiller avec des vêtements produits peut-être dans des grandes chaînes industrielles, c'est-à-dire nos modes de vie sont complètement urbanisés. Hein. Ce ne sont pas simplement des statistiques dont nous parlons ici, mais véritablement de formes de vie qui sont différentes. Eh bien, à Shanghai, on réalise cela. Et l'exposition universelle de Shanghai, elle est spectaculaire parce que Shanghai est devenue une quoi ? On ne sait même pas trouver le mot pour désigner Shanghai. Ce n'est pas une ville, ce n'est pas une métropole, ce n'est même presque plus une mégapole. C'est une sorte de région urbaine au sein de laquelle certains auteurs pensent qu'il y a plus de 80 millions d'habitants. si l'on prend l'échelle la plus vaste, qu'est-ce que c'est qu'une entité urbaine de 80 millions d'habitants ? C'est-à-dire 20 millions de plus pratiquement que la population d'un État comme la France. Donc on découvre à Shanghai que la Terre a complètement changé. Mais nous n'avons peut-être pas, nous aujourd'hui encore en France en 2022 et dans le monde d'ailleurs en 2022, nous n'avons peut-être pas encore pris toute la mesure de ce bouleversement-là.
Alors justement, parce que moi je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, l'exode rural c'était presque vu comme quelque chose de positif. On se disait, bon, la campagne c'est quand même une vie un petit peu rustique, la vraie vie c'est la ville. Est-ce qu'il n'y a pas un procès en ce moment de cette manière d'avoir tous convergé vers des très très grandes agglomérations qui sont très difficiles ? Et peut-être que d'ailleurs là, Jean-Laurent Casselli, vous avez, les auditeurs encore ne peuvent pas le voir, mais vous avez une pile de magazines qui vient de l'après-Covid ou du Covid, où tout d'un coup, on a senti, c'est plus de l'exode rural, c'est de l'exode urbain. Donc, est-ce que finalement, notre nouvelle façon de vivre le monde va être de repartir coloniser les campagnes après avoir colonisé des villes ?
Oui, c'est assez amusant parce que j'utilise souvent ces suppléments de magazines pour illustrer justement la fameuse quête des citadins vers la maison individuelle. Dans l'Obs ou dans le Point ou dans l'Express, il y a quelques années, on faisait les classements des métropoles où il fait bon vivre ou des prix au mètre carré en fonction des arrondissements parisiens. Et puis quelques années plus tard, on a trouvé le classement des villes moyennes où il fait bon vivre. Et puis peut-être demain, le classement des plus beaux villages. Donc c'est assez amusant. Alors c'est aussi le défaut de la presse, c'est qu'on suit les tendances, et puis il faut qu'on anime aussi notre lectorat. Mais je pense que c'est, enfin, pour travailler en presse magazine, je sais que si ces numéros, ces suppléments sont faits, c'est parce qu'ils sont vendus. Et pourquoi est-ce qu'ils sont vendus ? Parce que les Français, les citadins notamment, se demandent où vivre quand ils quittent Paris, quand ils quittent Bordeaux, quand ils quittent Nantes. Et si vous voulez, Michel a tout à fait raison de rappeler le caractère urbain de ces nouveaux modes de vie. Quand vous êtes dans ce qu'on appelle le périurbain, qui est un terme que personne n'emploie jamais dans la vraie vie, puisque les gens ne vous disent jamais « Viens chez moi au Barbucks le dimanche, j'habite le périurbain de Nantes. » Ils disent « J'habite un village, c'est sympa, on est à côté de la nature, voilà. Et puis on peut faire du vélo. » Mais en tout cas, ce que veulent les gens, c'est le meilleur de l'urbain et le meilleur de la ruralité. Et quand on parle d'exode urbain ou de retour du pavillon, de la maison avec jardin, on parle de gens qui ne sont pas en train de devenir des néo-ruraux fondamentalistes qui ne vont plus être livrés par Amazon, qui n'auront plus au supermarché, qui n'auront plus de voiture et qui n'auront plus de vêtements à la mode, qui se feront livrer par des boîtes de e-commerce. On parle de gens qui majoritairement veulent en fait à la fois le retour à la nature, c'est-à-dire le paysage de la ruralité et le confort de vie de l'urbanité, et notamment je dirais même de la couche la plus récente, qui est la couche digitale numérique en fait de nos vies qu'on a tous et toutes intégrées aujourd'hui, même quand on vit dans des, en tout cas en France, quand on vit dans la ruralité.
On est en droit de considérer que les plus urbains des Français sont les périurbains. Et donc, c'est le paradoxe du périurbain à la française. C'est-à-dire, effectivement, une sorte de réalisation de la prophétie d'Alphonse Allais, je crois. Hein, quand on aura construit les villes à la campagne, on aura quand même réglé bon nombre de problèmes politiques. Bah, on a l'impression qu'on a construit des villes parfaites dans la campagne parfaite en mythifiant l'un et l'autre. Hein, c'est-à-dire en ayant une vision, peut-être même pas de la ruralité idéale, mais de la campagne éternelle idéale. Alors, nuançons, ça c'est quelque chose qui est très français, qu'on peut retrouver dans d'autres pays, mais dans beaucoup d'autres contrées, en revanche, la périurbanisation n'est pas pavillonnaire. La périurbanisation prend des formes beaucoup plus massives et beaucoup plus collectives. La périurbanisation chinoise n'est pas pavillonnaire. Et pourtant, elle existe. Elle est très importante. Donc, il faut bien comprendre que ce qui est lié au processus de développement urbain généralisé dont je parlais tout à l'heure, c'est une complexification considérable des espaces habités par les êtres humains aujourd'hui. C'est-à-dire nos organisations géographiques d'habitation n'ont jamais été aussi complexes. Nous avons tellement urbanisé la planète que nous avons créé des dispositifs géographiques d'une incroyable complexité, et d'abord pour nous-mêmes, parce que c'est très complexe d'habiter aujourd'hui en périurbain, dans un espace métropolisé. Il faut aujourd'hui être une sorte de logisticien, de technicien en quelque sorte de l'habitation. Et cette complexité-là, si on ne la reconnaît pas, alors on ne sera jamais capable de poser la question fondamentale que vous avez posée en introduction, comment habiter autrement ? Mais pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre la complexité du monde d'aujourd'hui. Et ça, on ne le fait que trop peu.
Alors, on va écouter un témoignage d'un couple marseillais qui va nous livrer son ressenti et le choix que ce couple a fait d'aller vivre dans un espace relativement réduit.
Bonjour, je me présente Marc. Je suis jeune retraité, militant écologique. J'avais prévu de venir avec ma femme Sophie, mais elle a eu un empêchement. Quand on a vu le post sur les réseaux sociaux qui annonçait votre séance d'aujourd'hui, on s'est dit que nous devions venir témoigner parce que cette question « Comment habiter le monde aujourd'hui ?» c'est pour nous une préoccupation centrale dans notre vie. On pourrait ajouter d'ailleurs « Comment habiter le monde aujourd'hui et surtout demain ?» Bon, alors on n'est pas ici pour faire de grands discours, on veut simplement témoigner de notre expérience vécue. Nous avons acquis, Sophie et moi, en 2008, un appartement T4 au cinquième étage de la Cité Radieuse à Marseille. Un appartement, autrement dit, une cellule de base, hein, puisque c'est le nom employé par Le Corbusier. Et nous voulions faire l'expérience par nous-mêmes de vivre dans cet ensemble architectural tel que pensé par Le Corbusier. Alors, vu de loin comme ça, dans l'idée, ça a l'air bien, mais vivre au quotidien, hein, finalement, c'est comment habiter un espace à la mesure exacte de nos besoins. Un espace à vivre qui soit une économie d'espace, il n'y a pas de surplus. Alors, pour bien comprendre, peut-être il faut redire un mot sur le principe et les conditions dans lesquelles le projet s'est élaboré à l'époque. La philosophie de Corbus est de penser que les grands rassemblements humains, qui sont la marque de notre modernité industrielle, ne peuvent plus se concevoir dans l'étalement, dans des enchevêtrements de rues, d'avenues, où s'alignent les bureaux, les services, les commerces, et en périphérie des villes, les habitations en maisons plutôt type individuel. Alors bien sûr, on a commencé à la fin du 19e siècle à superposer les habitations pour gagner de la superficie, mais on était encore limité en hauteur. L'idée révolutionnaire de Corbus, c'est de renverser la perspective. D'un seul coup, la cité devient verticale. Une cité verticale. Alors là, quand même, il fallait oser. 2000 personnes peuvent habiter autour d'une rue verticale desservant 20 étages sans que la distance de l'ascenseur à leur porte dépasse 50 mètres. On arrive à une densité de 1000 habitants à l'hectare sans que les volumes bâtis recouvrent plus de 12% de la surface du sol. Une ville de 10 000 habitants pourrait, par exemple, tenir à l'aise dans 5 immeubles au milieu des jardins des Tuileries, par exemple, sans détruire un parterre, parce que les cités verticales de Corbus sont élevées sur pilotis. Il n'y a même pas d'emprise au sol. Alors, bien sûr, aujourd'hui, les conditions d'habitation dans la cité radieuse ont un peu évolué. On a un peu perdu du projet initial, mais imaginez un peu, une cité d'habitation de 337 appartements, du studio au T4, pour 1600 habitants, avec une galerie marchande, dispensaire, infirmerie, un centre de récupération des déchets, un hôtel, école maternelle, organisé autour de larges couloirs de circulation intérieure, un toit-terrasse, sur lequel il y a un gymnase, des terrains de jeu, un solarium, un auditorium de plein air. Le tout dans un seul immeuble, suspendu, on pourrait dire, entre ciel et terre, au milieu d'un parc de 3 hectares, comprenant là aussi des écoles, des ateliers, stades et piscines. Voilà, alors, quand même, c'est toute une conception de la société qui est bouleversée, notre façon de vivre ensemble, de combiner réellement le lieu privé de la famille dans des espaces collectifs. Le cœur du projet de Corbus, c'est une conception nouvelle de la norme pour rationaliser le rapport à l'espace vital dans lequel nous vivons. Le génie de Corbus est de penser cette normalisation, non pas du point de vue purement arithmétique, comme d'autres l'avaient fait avant lui, mais de prendre pour unité de mesure le corps humain. Voilà, c'est la base, c'est le modulor. Calculé par le quotient de la taille humaine moyenne, 1,83 m, bon, pour moi, ça laisse un peu de marge, par la hauteur de son nombril, 1,13 m, qui donne comme unité de base 1,619 m, soit, parenthèse, hein, c'est le nombre d'or. Alors, la cellule de base, c'est un contenant familial, c'est son expression, un contenant familial, dont les mesures de largeur et de hauteur se déduisent de cette unité de base, qui est le moduleur. Donc, un espace vital, mais sans plus. C'est confortable, je peux vous le dire, mais sans gaspillage. Au fond, c'est enfin rationnel. C'est rationnel à la mesure des transformations dans lesquelles notre société s'est engagée et auxquelles nous devons faire face collectivement aujourd'hui. Alors, l'architecte Le Corbusier a suscité autant d'enthousiasme que de critiques dans la réalisation de ce projet. Ici, à Marseille, on appelait la cité radieuse la maison du fada. Voilà, c'est dire. Et oui, le rêve de la petite maison individuelle, chacun son petit jardin, était renvoyé à l'ère d'un individualisme irresponsable. Voilà, ben nous habitons donc la cité radieuse par militantisme, parce que nous croyons que c'est la voie à suivre, Corbu n'a réalisé que 5 unités d'habitation, 3 en France, 1 en Allemagne, 1 en Inde. C'est peu. Donc, ce que nous avons à dire, c'est qu'il faut rouvrir le dossier des utopies urbaines et qu'il faut voir grand et d'urgence. Merci.
On entend dans ce témoignage qu'en effet, on a parlé de l'étalement, on a parlé encore de l'attraction de la maison, même si c'est peut-être un phénomène, Michel Lussault le rappelait, peut-être un peu plus français. On a quand même peut-être aussi besoin d'ouvrir l'imaginaire des gens. Peut-être, Jean-Laurent Cassely, vous vouliez nous faire entendre un son qui est un son qui correspond à un imaginaire très familier. Nous entendons en effet le bruit d'une grillade. Jean-Laurent Cassely, c'est ça l'imaginaire aujourd'hui. Vous en parlez, mais peut-être d'abord expliquer ce témoignage, enfin ce choix de ce son. Mais surtout, est-ce qu'après l'avoir justifié, est-ce que vous pensez qu'il y a un autre imaginaire à ouvrir pour que justement notre façon d'habiter la planète soit plus durable ?
Il est clair que l'utopie urbaine, périurbaine, post-rurale, je ne sais plus comment il faut l'appeler d'aujourd'hui. J'ai voulu l'allier au barbecue, en clin d'œil, parce que c'est encore une fois, c'est une utopie plutôt individualiste. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est plutôt une constatation. On est dans un moment dans lequel je doute que les gens aient massivement envie d'aller habiter dans des unités d'habitation type Le Corbusier. D'ailleurs, c'est une pensée de la ville qui aujourd'hui est plutôt assez contesté et dont le legs urbanistique, personnellement, je trouve très beau. Là, j'aime beaucoup la Cité radieuse, mais comme plein de gens qui s'intéressent à l'urbanisme et à l'architecture, mais c'est plutôt un échec sur le plan des idées. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt passé à autre chose. Je doute fort qu'on y revienne. En revanche, je pense que la période du tout maison, tout lotissement, un peu à l'américaine, à la Desperate Housewives des années de la fin du 20e et du début du 21e, va aussi être derrière nous dans la mesure où elle va devoir se complexifier et s'hybrider avec de nouveaux impératifs, que ce soit l'impératif écologique, que ce soit la réduction du transport, du recours à la voiture, au transport individuel, que ce soit par exemple l'intégration, pour prendre un phénomène très dans l'air du temps, du télétravail pour un certain nombre de ménages, qui implique aussi de relocaliser une partie de la vie travaillée, par exemple d'avoir un bureau chez soi ou d'avoir un coworking, un bureau partagé, que ce soit dans un lotissement ou proche d'une gare. On voit que, si vous voulez, toute cette ingéniosité qu'on a plutôt associée à l'urbain dense dans les années 2000-2010, les endroits un petit peu à la mode, un petit peu branchés, les tiers-lieux, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de se décaler vers le périurbain et le rural depuis une dizaine d'années. Et je pense que ce déplacement s'est accéléré depuis le Covid, entre autres parce que les gens eux-mêmes quittent, les innovateurs culturels aussi ont tendance à quitter les villes et donc à inventer une nouvelle manière d'être rural ou d'être périurbain. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir une couche de complexité supplémentaire.
Une couche de complexité, c'est pas évident justement à comprendre dans quelle direction nous devons aller. Michel Lussault, pour conclure peut-être cet échange, nous cherchions à savoir s'il y avait un responsable et un coupable dans notre manière d'habiter ce monde. Est-ce que selon vous, encore une fois, on devrait ouvrir un nouvel espace pour peut-être vivre différemment les villes, les campagnes ?
Nous sommes tous et toutes à la fois victimes et bourreaux. Alors, certains plus que d'autres. Nous sommes ici dans cette salle sans doute moins contributeurs que le PDG de Total ou que Elon Musk ou qu'un touriste spatial qui se paye quelques millions de dollars sa petite escapade un peu obscène autour de la Terre. Ok, c'est bien d'accord. On ne va pas nier ici l'importance des inégalités sociales, des inégalités environnementales. D'ailleurs, aucun chercheur sensé ne les nie. Mais il faut bien comprendre que nous sommes tous à la fois acteurs et agents, bourreaux et victimes. Et nous sommes pris dans cette contradiction-là. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure du barbecue comme emblème un peu de la vie périurbaine, mais il y en aurait d'autres. D'ailleurs, Jean-Laurent en parle dans le livre « La piscine », « L'automobile ». Ben, finalement, le barbecue, ça doit nous inciter à réfléchir à quoi ? Quel type de système de production agricole devons-nous mettre en place pour qu'il soit plus soutenable ? Et ça passe par une réflexion sur notre alimentation. Oui, il faut avoir le courage de dire qu'une alimentation très carnée et complètement désinvolte par rapport à l'impact environnemental de l'agriculture, dans les années qui viennent, devra être questionnée. La piscine, Oui, il faudra avoir le courage de dire que l'équipement de chaque pavillon en piscine individuelle est insensé au plan environnemental, totalement insensé. Finalement, nous verrons que c'est peut-être aussi le diagnostic d'autre chose. C'est que si les gens aiment leur piscine individuelle dans des pavillons, c'est peut-être qu'ils trouvent aussi dans les espaces plus centraux, eh bien, plus rien n'est fait pour le confort, pour les aménités. Combien de villes ont laissé dépérir les équipements publics, les infrastructures sociales ? N'y a-t-il pas non plus derrière le succès du pavillonnaire un autre discours qu'on pourrait entendre, c'est-à-dire que finalement les zones les plus centrales des métropoles sont devenues avant tout des machines à cash, sont devenues avant tout des espaces de maximisation de la rente immobilière et de spéculation. Finalement, on sait, parce que des études ont été faites, que si vous équipez bien les villes, si vous avez des infrastructures publiques et sociales très efficaces, de bons équipements de santé, de bons équipements scolaires, de bons équipements publics sportifs et culturels, si vous avez des parcs et des espaces verts, de vastes espaces de rencontres, si les logements ne sont pas trop chers, voyez la somme des si, eh bien beaucoup de gens aspirent à certains âges de leur vie, peut-être pas quand on a des jeunes enfants, mais à certains âges de la vie, on aspire à vivre avec d'autres dans la proximité aussi rassurante des autres et rassurante surtout si les logements sont bien isolés. Donc finalement, le succès du périurbain en France, ça traduit aussi l'insuccès d'un modèle plus dense parce que finalement, ce que les gens n'aiment pas dans la ville dense, ça n'est pas la ville dense, c'est la ville dense non équipée, non amène, de médiocre qualité, où on a l'impression finalement qu'au bout du compte, les seuls bénéficiaires de la ville dense sont ceux qui sont capables d'acheter les logements à 10 000 euros le mètre carré à Paris, 8 000 euros à Lyon, ou en très forte croissance dans même les villes comme Marseille, qui jadis étaient encore des villes où le logement central était très accessible. Donc c'est ça aussi qui doit nous mener vers la voie de la réflexion collective sur nos manières d'habiter le monde différemment.
Michel Lussault, Jean-Laurent Castelli, merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Nous voyons à quel point la complexité de ces questions est grande. Une chose est sûre, il est important de s'informer sur la manière dont nous organisons nos vies et sur l'impact de nos modes de vie. Cela peut déjà commencer par là, pour pouvoir ensuite, éventuellement, faire changer notre façon d'habiter la Terre. Merci d'avoir suivi ce 5e grand procès, une initiative du MUCEM. À bientôt, merci pour votre attention.
C'était le podcast Le procès du siècle,
Délibération citoyenne.
Une série réalisée en partenariat
avec les amis du MUCEM, Libération, Magma et RFI.
Merci de l'avoir écouté et rendez-vous au prochain épisode.